tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offrent des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1870-1880, vous entendrez de Charles-Marie Widor la symphonie numéro 2, opus 13.
Internet libère les patrons de la nécessité de faire acte d'autorité, par Martine Bullard. L'usage d'Internet n'a pas signé la fin du travail, comme certains le prophétisaient. Il a, en revanche, bouleversé ses conditions et suscité l'apparition d'une société de l'urgence qui demande toujours plus de flexibilité et entraîne la prolétarisation des classes moyennes. Et si les nouvelles technologies semblaient inviter à plus d'horizontalité, les ordres continuent à venir d'en haut, mais sur écran. Internet, intranet, ordinateur portable, téléphone mobile, telle est la parfaite panoplie du travailleur branché sur son temps. Cette convergence entre les télécommunications et les réseaux informatiques permet d'échanger des informations, de partager des savoirs, de communiquer d'un bout à l'autre de la planète, ou tout simplement de bureau à bureau. Une révolution qui a changé les relations entre les individus et bouleversé le mode de production de la valeur et des profits. Les biens échangés deviennent des services, explique l'économiste américain Jeremy Rifkin en prenant l'exemple du téléphone. Autrefois, on vendait l'appareil et on offrait une garantie de 2 ans. Aujourd'hui, on offre l'appareil si vous achetez l'abonnement pendant 2 ans. Ce n'est pas la fin du travail qu'il avait prédite il y a 2 décennies, mais un bouleversement de ses conditions d'exercice. On vend des compétences et des savoir-faire tout autant, et parfois plus, que des produits. L'univers quotidien des salariés s'en trouve complètement chamboulé.
Autrefois, on vendait un téléphone et on offrait la garantie. Aujourd'hui, on offre le téléphone, mais à condition de payer l'abonnement.
Un mot d'ordre. Toujours être réactif. De fait, les technologies de l'information et de la communication s'avèrent bien plus souvent source d'intensification du travail que d'enrichissement professionnel. Les cadences de travail, notait à l'orée des années 2000 le commissariat général du plan, sont de plus en plus contraintes. Loin de diminuer, le travail posté progresse. Ce dernier a même fait son apparition dans des secteurs jusqu'alors plutôt épargnés. Le nombre de salariés du tertiaire ayant des normes quantitatives à respecter dans une journée est passé de 19% en 1984 à 43% en 1998. Le travail n'est pas forcément moins qualifié, au contraire. Dans la plupart des cas, il réclame des connaissances multiples pour maîtriser les nouveaux outils et une plus grande capacité d'initiative pour faire face aux faisceaux d'informations à traiter. Et le temps libéré grâce à l'automatisation de certaines tâches et au travail en réseau est littéralement absorbé par des contraintes de plus en plus fortes. Comme le précise le sociologue Daniel Linhart, qui a mené des études dans l'industrie mais aussi dans de grandes entreprises de téléphonie ou dans des centres d'allocation familiale, les salariés subissent l'impact de 2 logiques incompatibles, l'appel à la responsabilisation et la soumission au contrôle. Ils doivent résoudre les problèmes qui se présentent, faire des diagnostics de base, mais ils restent soumis à la pression temporelle. Les 2 logiques sont inscrites dans le travail, et c'est aux salariés de traiter cette contradiction. Sinon, ils deviennent inemployables, c'est-à-dire dans l'antichambre du chômage. Si Internet n'a pas inventé le phénomène, Il l'a accéléré. En effet, ces nouveaux outils permettent d'effectuer plus de travail en moins de temps. Mais leur utilisation réclame des compétences polyvalentes, des initiatives, du travail en commun et du temps, notamment pour gérer les pannes à répétition et les demandes des clients ou usagers. Le plus souvent, souligne Daniel Linhart, les gens souffrent moins de ce qu'on leur impose que de ce qu'on les empêche de faire. Des frustrations d'autant plus vives et un stress d'autant plus fort que les clients exigent une réponse, une livraison ou un service dans un délai de plus en plus court, à tel point que les directions d'entreprise recourent de plus en plus rarement à des directives autoritaires. La pression de la clientèle suffit. Un seul mot d'ordre, être réactif, tout le temps et partout. On voit ainsi se dessiner une société de l'urgence, qui pousse à la parcellisation des tâches, à la mise en place d'horaires atypiques, bref, à toute la panoplie de la flexibilité. Pourtant, les mêmes technologies pourraient offrir la possibilité de travailler ensemble, de lever des cloisons entre les différents services et d'avoir une vue plus globale des dossiers traités. Cette fameuse horizontalité pourrait donner un nouveau sens au travail. Mais cela suppose de former des gens, de revoir l'organisation de l'entreprise et de reconsidérer les systèmes hiérarchiques. Sinon, c'est l'échec.
Les entreprises ont moins besoin de recourir à des directives contraignantes. La pression de la clientèle les remplace.
Cadre coupable, employé jetable. Dans les années 1990, une grande firme automobile française a changé son système de maintenance, avec pour volonté officielle d'enrichir les métiers. Certaines fonctions autrefois réservées à des techniciens qualifiés ont été déléguées aux opérateurs, selon la nouvelle appellation des ouvriers, laissant du temps aux premiers pour faire de la prévention et travailler à éviter les pannes. Cette possibilité pour les opérateurs d'intervenir sur leurs installations pouvait être perçue comme une ouverture vers une maîtrise plus complète de leur travail, note Marie-Noëlle Pécou, qui a étudié le système de maintenance active de ce grand groupe industriel. Au bout du compte, les professionnels de la maintenance ont vécu cette mutation comme une perte d'identité et ils n'ont gagné aucun pouvoir d'intervention dans d'autres domaines, le choix des équipements par exemple. Quant aux opérateurs de la production, ils y ont vu une charge de travail supplémentaire, la coupure entre ces catégories de personnel demeurant toujours aussi vivace. Et Marie-Noëlle Pécou de conclure. Les innovations marquent moins un effacement de la division taylorienne du travail qu'une modification des formes qu'elle prend. Cette logique marque aussi la conception des systèmes de traitement de l'information. Certains logiciels permettent d'automatiser la lecture de documents et d'en gérer le flux, sans que les salariés puissent intervenir, tandis que les réseaux, eux, permettent de s'émanciper des lieux géographiques. Ces systèmes, souligne l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, ANACT, ont des conséquences importantes à la fois sur le volume de postes et sur la prolétarisation des classes moyennes. Le modèle parfait des centres d'appel. Les ordres, eux, continuent à descendre, l'écran ayant remplacé les contacts humains. Il arrive même, paradoxe des paradoxes, que les salariés se sentent encore plus isolés et cloisonnés qu'avant. C'est parfois par l'intranet, le réseau maison, qu'ils apprennent leurs nouveaux objectifs de production, les changements dans les axes de travail, voire des modifications de processus de fabrication ou d'organisation des tâches. L'ensemble des relations sociales a ainsi éclaté sous le coup de la mondialisation et d'Internet. L'entreprise est de plus en plus organisée en cercles concentriques avec, au centre, des salariés hyper qualifiés, autonomes et mobiles avec salaire élevé et fonds de pension. Plus loin, des salariés aux qualifications jugées utiles, avec travail contraint, salaire décent mais sans stock options. Et à la périphérie, des travailleurs jetables, horaires flexibles, petits salaires et contrats à durée déterminée. De ce point de vue, les centres d'appel, téléphoniques ou sur Internet, représentent des modèles presque parfaits à l'échelle d'une branche d'activité, tout aussi symbolique de la nouvelle économie que les jeunes poussent, mais infiniment moins médiatisée, ces centres connaissent une croissance rapide depuis les années 1990 et occupent aujourd'hui près de 300 000 personnes en France, plus de 3 millions en Europe, soit 3 fois plus qu'il y a 2 décennies. Leurs activités vont de la maintenance de systèmes informatiques à la vente de biens ou de services, de la gestion des comptes bancaires aux services après-vente. Le spectacle y est souvent affligeant. Un alignement de têtes casquées, prolongées d'antennes micro, des mains qui se déplacent à grande vitesse sur le clavier, des yeux qui passent des écrans aux affiches lumineuses indiquant le nombre d'appels en attente, des visages tendus. La moyenne d'âge n'y dépasse guère les 25 ans et le taux de rotation atteint 30%, un record que seule la restauration rapide doit égaler. La plupart des salariés sont payés au nombre d'appels reçus ou de clients gagnés. Certains travaillent à demeure, mais sont payés par une société de centre d'appel sans convention collective digne de ce nom. La nouveauté de ces métiers a rendu possible le contournement des lois sociales. Cela n'a pas empêché les grands groupes de choisir la délocalisation dans des lieux encore plus avantageux. Air France, par exemple, a installé en 1999 son centre de réservation à Wembley, au Royaume-Uni. Les cadres ne sont pas épargnés. Avec la loi sur la réduction du travail à 35 heures, ils doivent faire le même travail qu'avant, en moins de temps officiel. Avec les nouveaux outils de communication, il leur faut être disponible à tout moment. Chaque message Internet envoyé est considéré comme reçu, alors qu'une lettre peut être retardée, le téléphone sonné dans le vide. En moyenne, un cadre reçoit une centaine de messages par jour. Si l'on ajoute la messagerie vocale, il lui faut bien 20 à 30 minutes chaque matin pour prendre connaissance et trier les informations. Et s'il n'ouvre pas sa boîte électronique, il est d'avance coupable. Une triple pression, celle de la hiérarchie directe qui considère que l'ordre envoyé est instantanément connu, celle des clients qui pensent que la commande passée est immédiatement reçue, celle de subordonnés qui ne font plus un pas sans en informer leur chef, lequel va se trouver désarmé en cas d'erreur s'il n'a pas lu le message en temps et en heure. Un sport tellement courant que dans certains bureaux, on parle de e-parapluie.
Toutes les décisions sont censées circuler, toutes les critiques aussi. La hiérarchie est pourtant rarement remise en cause.
Qui a l'information possède le pouvoir. Ces pratiques semblent bien plus déstabilisantes pour l'encadrement que la circulation horizontale de l'information, qui pourrait menacer son autorité. Certes, chaque salarié peut, en principe, doubler son supérieur et envoyer ses propositions ou ses revendications au plus haut niveau de l'échelle. Il peut commenter, au vu et au su de tout le monde, une décision absurde. Mais la remise en cause du rôle de la hiérarchie par ces méthodes semble assez rare. Le plus souvent d'ailleurs, la direction sollicite ses interventions, y voyant l'occasion de se débarrasser de cadres trop anciens ou d'accélérer les changements d'organisation. Le contrôle de la connaissance, de sa diffusion et de ses applications devient l'un des enjeux majeurs des relations sociales comme des relations économiques. Les verrous de la propriété demeurent. Celui qui possède l'information possède le pouvoir, et réciproquement. Mais elle n'est pas une marchandise comme les autres, puisqu'en la diffusant, on ne s'en sépare pas. Plus on la partage, plus on l'enrichit. Plus on la monopolise, plus on l'appauvrit. C'est bien cette contradiction qui fragilise les systèmes de pouvoir.